Bruxelles, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 octobre 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire, ce soir, consternation à l'ONU à la nouvelle de la mort de Casque Bleu au Mali.
On est en train de mettre en place des mesures pour parer à ces attaques qui ont été trop fréquentes ces derniers mois. Évidemment, on ne peut pas rester sans réaction.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA au Mali.
Toujours dans le nord du Mali, évasion dans la prison de Gao, bilan au moins un mort.
Hong Kong, sixième journée de manifestation sur fond de violence, rupture du dialogue entre les étudiants pro-démocratie et les autorités.
Nombreux sont ceux qui émigrent chaque année aux États-Unis, attirés par le rêve américain. Nous ferons connaissance aujourd'hui avec un groupe venu de Centrafrique.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
9 casques bleus nigériens tués au Mali, leur convoi a été attaqué par des hommes lourdement armés sur des motos, selon la MINUSMA. Depuis le début de l'année, près de 30 soldats de la mission onusienne ont perdu la vie. Olivier Salgado, son porte-parole.
Ce matin, un convoi de la MINUSMA a été pris en embuscade par un groupe armé qui a intervenu sur des motos lourdement armées. Et cette attaque a donc entraîné la mort de 9 de nos casques bleus nigériens. Ça s'est passé sur l'axe Menaka-Asongo, à une quinzaine de kilomètres de Indelin. On est en train de mettre en place des mesures pour parer à ces attaques qui ont été trop fréquentes ces derniers mois. Évidemment, on ne peut pas rester sans réaction face à ces attaques répétées.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, joint par Nicolas Pino.
Sachez aussi que l'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga, était en garde à vue aujourd'hui à Nanterre, près de Paris. C'est ce que rapporte l'AFP, citant une source proche du dossier. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête pour corruption visant l'homme d'affaires Michel Thomy. On ignore les faits susceptibles d'être reprochés à l'ancien ministre malien.
L'armée algérienne a tué jeudi 5 criminels présumés dans la zone de Tiririn, près de la frontière avec le Niger. Les soldats auraient également détruit 2 véhicules tout-terrain. D'après le ministre algérien de la Défense, ces individus étaient tous des étrangers. Parmi eux figurait un Libyen. La nature de leur crime n'a pas été précisée. À noter qu'hier, l'armée a saisi une arme, des munitions et 2 véhicules dans la même zone.
Intervention française dans le Sahel, Paris devra à l'avenir payer le soutien de Washington. Depuis le début de l'intervention de la France au Mali, l'armée américaine a notamment fourni à la France des drones de surveillance, des avions de transport et de ravitaillement. Les États-Unis entendent maintenir ce soutien militaire, mais Paris devra rembourser les frais engagés, indiquent des responsables militaires américains cités par l'AFP.
Au Nigeria, 3 hommes accusés de terrorisme ont été jugés en secret et condamnés à 25 ans de prison chacun. C'est ce qu'annoncent les autorités de l'État de Lagos, cité par l'AFP. Des médias nigérians ont rapporté que les coupables faisaient partie d'une antenne locale de Boko Haram qui préparait des attentats à Lagos.
Au Nigeria toujours, dans l'état de Yobe, les autorités ont interdit à la population de voyager pendant tout le week-end de l'Aïd afin de prévenir des attaques du groupe islamiste Boko Haram.
Un patient présentant des symptômes de fièvre à Ebola a été admis dans un hôpital de la capitale américaine, celui de l'université Howard, Camille Gros-Didier.
Selon Kerri-Anne Hamilton, porte-parole de l'hôpital de l'université Howard, le patient qui s'est récemment rendu au Nigeria est dans un état stable et a été isolé. Entre-temps, le directeur des services de santé du comté de Dallas au Texas a dit que le premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis est sous contrôle, en dépit de la mise en quarantaine de 4 personnes, tandis qu'une centaine d'autres ont été placées sous haute surveillance. Selon les médias américains, le Libéria prévoit de poursuivre en justice le premier malade du virus à Ebola hospitalisé à Dallas. Thomas Duncan aurait menti sur un formulaire qu'il a rempli à l'aéroport le 19 septembre avant son départ pour les États-Unis. Par ailleurs, un caméraman américain travaillant au Libéria pour NBC News a contracté le virus à Ebola. Il sera rapatrié et toute l'équipe sera placée en quarantaine pendant 3 semaines, a fait savoir la chaîne de télévision.
Première édition du prix Orisha pour l'art contemporain africain. Le sculpteur béninois Kifoli Dossou a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, en Chine, nouveau heurt entre les manifestants pro-démocratie et des habitants opposés aux protestations. Les étudiants pro-démocratie ont annulé les pourparlers qu'ils devaient avoir avec le gouvernement. Le point avec Issia Kaba.
La Fédération des étudiants de Hong Kong a fait savoir qu'elle n'avait pas d'autre choix que de renoncer aux discussions avec les autorités. Les manifestants avaient précédemment exigé des mesures de protection contre ce qu'ils qualifient d'attaques organisées. La situation jusque-là paisible a dégénéré aujourd'hui quand des centaines de partisans du Parti communiste ont attaqué un site de protestation dans le quartier de Mong Kok, détruisant des tentes et des bannières. D'autres gens se sont joints à la mêlée, rapporte le correspondant de La Voix de l'Amérique, Brian Padden. Ces individus en colère, personne n'est sûr de leur identité ou de leur provenance. Ils s'identifient comme des hommes d'affaires et des travailleurs locaux, rapporte le correspondant qui décrit la situation en Hong Kong de très volatile. Des policiers sont intervenus et aucune blessure grave n'est à signaler. Les manifestants demandent à la Chine des élections démocratiques en 2017 et la démission de Lun Xunying, chef de l'exécutif de ce territoire chinois semi-autonome. De son côté, le Parti communiste chinois juge ces manifestations illégales.
Pour des photos des manifestations à Hong Kong, visitez notre site internet voaafrique.com.
Les militants de l'État islamique poursuivent leur offensive contre la ville syrienne de Kobané, limitrophe de la Turquie, malgré les frappes de la coalition internationale. Au sol, les combattants kurdes résistent depuis plusieurs semaines sans pouvoir repousser les djihadistes. Plus de 160 000 personnes ont fui vers la Turquie, qui a promis aujourd'hui de tout faire pour que Kobané ne tombe pas. La campagne contre l'État islamique se déroule aussi en Irak, où les militants ont pris vendredi le contrôle en partie d'une ville de l'ouest de Bagdad. Par ailleurs, l'Australie a joint la coalition et le Canada pourrait bientôt faire de même.
La bataille pour l'aéroport de Donetsk se poursuit en Ukraine. Kiev a accusé aujourd'hui des militaires russes d'appuyer l'offensive des séparatistes contre cet aéroport stratégique dans l'est du pays, au lendemain de la mort d'un employé suisse de la Croix-Rouge, toujours à Donetsk. Jacques Aristide.
Laurent Dupasquier a été tué hier soir par un obus tombé près des locaux du Comité international de la Croix-Rouge où il travaillait comme administrateur. Le gouvernement ukrainien en a imputé la responsabilité aux rebelles alors que Moscou affirme que l'obus avait été tiré d'un territoire contrôlé par les forces ukrainiennes. Quant aux affrontements, ils étaient ininterrompus. D'après le porte-parole des forces ukrainiennes, un nombre important de blindés, de pièces d'artillerie lourdes et de soldats ont été massés dans la région de Donetsk, a ajouté Andriy Lysenko. Après une accalmie dans le cadre de la trêve conclue le mois dernier, les tirs d'artillerie et de mortiers entre forces gouvernementales et séparatistes pro-russes ont regagné en intensité ces derniers jours à et autour de Donetsk. Depuis lundi, près de 20 personnes ont péri dans cette reprise des combats, les deux camps se rejetant mutuellement la responsabilité de ces morts. La Russie dément toute implication directe dans le conflit ukrainien qui, selon l'ONU, a fait plus de 3 500 morts depuis que des indépendantistes ont pris les armes en avril.
Visite surprise du Premier ministre britannique David Cameron en Afghanistan. Il s'est entretenu avec les dirigeants du nouveau gouvernement d'Union nationale. Dans une conférence de presse, M. Cameron a renouvelé le soutien de Londres aux forces militaires afghanes, malgré le retrait, fin 2014, des 3000 soldats britanniques de la mission de l'OTAN. Nous y reviendrons.
Au moins 32 morts, c'est le bilan d'un mouvement de panique lors d'un festival religieux en Inde. On ignore pour le moment les causes de cet incident qui s'est produit à Patna, capitale de l'État de Bihar. De telles bousculades sont courantes durant les événements religieux en Inde.
Ce vendredi ramène la fête du Yom Kippour au grand jour du pardon. Cette fête la plus sacrée du judaïsme coïncide cette année avec un temps fort du calendrier musulman. Eddie Isango.
En effet, pour la première fois en 33 ans, la journée de Yom Kippour consacrée au jeûne et à la prière coïncide avec la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice célébrée dès samedi matin à mardi soir. Auparavant, des millions de musulmans se sont retrouvés à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour leur pèlerinage annuel. Ces grandes fêtes religieuses se déroulent dans un contexte de guerre et de tensions, avec dans tous les esprits la lutte contre les radicaux de l'islam, en particulier les djihadistes sunnites de l'État islamique. Les grands muftis d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, a appelé les dirigeants musulmans à frapper ces derniers d'une main de fer, mais il s'est gardé de les nommer. « Votre religion est menacée, votre sécurité est menacée », a-t-il déclaré en dirigeant la prière de vendredi sur le mont Arafat, près de la Mecque, au deuxième jour du Hajj. Venus de partout dans le monde, quelques 2 millions de fidèles étaient rassemblés sur cette colline, symbole de l'attente du jour du jugement dernier. En Israël, les mesures de sécurité ont été renforcées, les territoires palestiniens bouclés pendant 48 heures, les points de passage étant systématiquement fermés, sauf pour des cas d'urgence humanitaire. Toutefois, des aménagements sont prévus par l'armée pour permettre à quelques centaines de Palestiniens de retrouver leurs proches dimanche pour les festivités de l'Aïd. Les ports et les frontières terrestres avec la Jordanie et l'Égypte sont également fermés.
Économie américaine, selon un rapport paru aujourd'hui, le taux de chômage a reculé en septembre à 5,9%, soit son plus bas niveau en 6 ans. Quelques 248 000 emplois ont été créés durant la même période, indique le département du travail. Ces chiffres dépassent les prévisions des économistes et confirment la relance amorcée il y a quelques mois. Cela pourrait aussi conduire au relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale, estiment les experts.
Voilà pour le journal. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour la partie magazine de notre émission. Et nous partons au Mali. À la prison de Gao, 14 détenus sont parvenus à s'évader tôt ce matin. Les forces de sécurité se sont lancées à leur trousse et ont appréhendé 4 d'entre eux. Selon notre correspondant sur place, l'un des prisonniers a été tué. Une enquête est ouverte. Les populations de Gao s'interrogent. On écoute Boubacar Touré.
Les pensionnaires de la prison de Gao sortis ce matin vers 6 heures pour la corvée du jour ont profité de l'inattention des gardiens de prison en service pour s'échapper. Ils sont au nombre de 14 au total, parmi lesquels 4 ont été appréhendés, dont un tué par balle lors des tirs de sommation, selon une source de la gendarmerie. Sur les lieux, nous avons tendu notre micro à Cheikhoun Hashimi, un jeune de Gao qui, avec son courage, a poursuivi un prisonnier évadé qu'il est parvenu à arrêter. Il nous raconte.
J'attends le coup de feu. C'est là que j'ai pris ma moto, je me suis approché. J'ai retrouvé que les policiers sont clôturés vraiment toutes les angles. Mais ils ont refusé de sauter le mur, de rentrer. Je les ai demandé est-ce qu'il est armé. On me dit qu'il n'a pas l'arme en main. Donc en me disant qu'il n'a pas l'arme en main, j'ai sauté le mur, je suis rentré. En fait, le monsieur, il a une gabarit plus que moi, mais lui-même, il s'est eu peur. C'est là qu'il s'est donné, il me dit grand frère, vraiment. Sabali, donc c'est là, je l'ai pris, je l'ai remis dans le maire des policiers, on l'a ramené ici. En arrivant ici devant le prison, on me dit qu'il vaut au maximum plus de 40 éléments. Mais moi quand même, je ne les ai pas vus. Les voleurs qui sont sortis présentement, c'est des bandits qui pouvaient aussi, on est dans le moment de fête, on pouvait même nous créer des problèmes encore, de nous ramener encore des désordres.
La prison de Gao est située entre le lycée Yanamega, le camp des gardes, et à 100 mètres vers le nord se trouve la gendarmerie, une zone avec une forte présence de forces de sécurité, d'où la colère des jeunes qui spontanément décident d'organiser une marche de protestation.
Bon, c'est ça aussi qui a fait révolte des populations qui ont venu parce que nous n'avons pas compris pourquoi il y a une bonne sécurité là-bas et particulièrement même les prisons étaient en sentier et au moment sentier, il y a tout le monde qui travaille là-bas et il y a la sécurité qui est aussi à la garde. Comment est-ce qu'ils sont là-bas et ils sont pris à la fuite pour partir? Ça nous a étonné. En vrai dire, vraiment, nous ne sommes pas en sécurité. Nous n'allons pas compris ce qui s'est fait tout de suite. Il n'y a pas de sécurité. Ce matin, nous voulons vraiment marcher. Pendant tous ces jeunes qui sont là, nous avons décidé d'aller à la place de l'indépendance.
Cette marche n'a pas eu lieu puisque les autorités locales sont parvenues à convaincre les jeunes à abandonner leur projet. Il faut le rappeler, tous ceux qui se sont évadés ce matin sont des prisonniers de droit commun. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La lutte contre l'apatridie au cœur d'une campagne du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés en Côte d'Ivoire. Abidjan estime à 700 000 le nombre d'apatrides sur son territoire, un nombre important mais vraisemblablement sous-estimé du fait de la non-régularisation des enfants à l'état civil sur plusieurs générations.
Le HCR a décidé d'appuyer près de 80 000 parmi eux qui ont franchi le pas pour des démarches en vue de leur régularisation. Les précisions avec Nora Sturm, porte-parole du HCR en Côte d'Ivoire.
Selon les estimations du gouvernement ivoirien, il y aurait environ 700 000 personnes qui vivent sur le sol ivoirien qui sont soit apatrides, soit à risque d'apatridie, ou avec un statut de nationalité en plus flou ou indéterminé. De ces 700 000, on compte plus ou moins 400 000 qui sont migrants historiques ou leurs descendants qui n'ont pas pris les démarches nécessaires lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et peu après, d'obtenir une nationalité reconnue par l'État. Et les autres 300 000 sont les enfants ivoiriens qui ont été abandonnés ou qui sont les orphelins dont les liens de parenté ne peuvent plus être prouvés. Ils ne sont donc pas reconnus par l'État ivoirien comme étant des ressortissants ivoiriens.
Alors quels sont les obstacles sur la route de la nationalisation?
Le gouvernement ivoirien a mis en place un programme d'acquisition de la nationalité par déclaration qui permet à certaines catégories de personnes très précises à postuler et s'ils complètent les critères nécessaires, s'ils remplissent ces critères, d'obtenir la nationalité ivoirienne par déclaration. Et les autorités ivoiriennes ont aussi commencé depuis plusieurs années là à faire beaucoup de sensibilisation pour permettre aux parents de déclarer leurs enfants dès la naissance. C'est ça qui est un processus qui est vraiment central à la prévention de l'apatridie. Parce qu'en déclarant son enfant de la naissance ou peu après, l'enfant a déjà un extrait de naissance et ça c'est un document qui est élémentaire dans l'obtention de la nationalité ivoirienne. Et puis le gouvernement a aussi mis en place ce qu'on appelle des audiences foraines, ce qui permet en fait à des parents qui n'ont peut-être pas déclaré leurs enfants à la naissance de le faire par après lorsque l'enfant est un peu plus âgé.
Comment en tant que HCR vous accompagnez le processus? Quel est votre rôle dans le processus?
En tant que HCR, nous on aide beaucoup au niveau de la sensibilisation des populations. Donc nous on va à l'endroit, à l'encontre des populations pour leur dire qu'il est très important de déclarer leurs enfants de la naissance. On soutient aussi les agents de l'État civil ivoirien en les formant sur la question de la patrie, les questions de documentation et de la nationalité ivoirienne. Aider le gouvernement à identifier des personnes qui, en effet, sont apatrides de la risque de la patrie pour ensuite leur apporter un soutien juridique pour résoudre leur cas individuel.
Nora Sturm, porte-parole du HCR, jointe à Abidjan par Jean-Roger Billon.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Chaque année, des centaines de milliers d'immigrés arrivent aux États-Unis pour tenter leur chance. Qu'ils viennent en tant que réfugiés ou avec la Green Card, carte verte, tous veulent vivre le rêve américain. C'est le cas de ces réfugiés centrafricains que Nicolas Pineau a rencontré du côté de Clarkston, près d'Atlanta. Reportage.
Avec sa voie ferrée, sa mosquée ou son lycée, où 50 nationalités se côtoient, Clarkston est bien un symbole de diversité. Cette petite ville de l'État de Géorgie, qui comptait à peine 7500 habitants en 2010, a bien changé depuis le début du XXIe siècle. Sur Indian Creek Road, réfugiés birmans, éthiopiens, somaliens et centrafricains se côtoient. Samuel Mathurin Benham, lui, est originaire de Bosangoa. Il est arrivé aux États-Unis en février 2013 avec sa femme et leurs 7 enfants, en provenance du Tchad. Il travaille aujourd'hui dans une usine qui fabrique des tondeuses à gazon. Samuel a très vite dû s'adapter au modèle américain pour subvenir aux besoins de sa famille.
Au pays, tu n'as pas travaillé, tu as droit à manger, tu viens, tu loges sans problème. Mais ici, il y a la solidarité, bien sûr. Mais ici, aux États-Unis, c'est ton propre argent qui compte. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer l'électricité, tu dois payer tous tes bills qui viennent. Donc la vie est vraiment différente.
Pour tous ces réfugiés, l'Amérique est avant tout synonyme de paix et de sécurité. Jean-Charles Benham, le frère de Samuel, a atterri le jour même à Atlanta. Originaire du quartier de Boyrab à Bangui, Il se souvient encore comment il a dû fuir la capitale centrafricaine.
Au niveau du carrefour Marabena, les hostilités ont commencé et je me suis enfui vers le quartier Gobongo où j'ai retrouvé des membres de ma famille. C'est ainsi que nous avons pu fuir Bangui et aller au Tchad.
L'agence américaine des demandeurs d'asile a signé une convention avec la ville de Clarkson dans les années 90 pour accueillir ces réfugiés. Le magazine Time a même désigné la localité comme la ville américaine la plus diverse, au mètre carré. Richard Benbetem, lui, se souviendra toujours de son arrivée, c'était le 8 août 2011, et pour cause, personne n'était venu le chercher à l'aéroport. 3 ans plus tard, il travaille toujours dans le même hôtel. Pour lui, c'est une réussite.
Oui, je suis très fier parce que je sais que ce sont mes efforts qui produisent pratiquement tout ce que j'ai. Quand je cherchais, je n'en trouvais pas avant. Donc là, je suis content.
La langue reste le principal obstacle à l'intégration de tous ces réfugiés. Si les enfants s'adaptent très vite à leur nouvelle vie américaine, c'est plus dur pour les parents. Ce jour-là, Geneviève Baligrosse est très fière de nous faire entendre ses premiers mots en anglais.
Good morning. My name is Geneviève Baligrosse. I'm like America.
Tous les réfugiés centrafricains interrogés ce jour-là gardent la nostalgie du pays. Si la paix revient en Centrafrique, ils rêvent d'accomplir le voyage retour. Un rêve lointain pour le moment, plus qu'une réalité. De Clarkston en Géorgie, Nicolas Pinault pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Visite surprise du Premier ministre britannique en Afghanistan, David Cameron, a eu des entretiens avec le tout nouveau gouvernement d'unité nationale du pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Ayant rencontré le chef de l'État afghan Ashraf Ghani au palais présidentiel à Kaboul, David Cameron a assuré que son pays continuera de soutenir les forces afghanes en dépit du retrait prévu de l'ensemble de ses troupes d'ici la fin de l'année.
Britain has paid a heavy price for helping to bring stability to this country.
La Grande-Bretagne a payé un lourd tribut pour aider à stabiliser ce pays. Mais c'est ici qu'Al-Qaïda entraîne ses terroristes. C'est ici que le complot du 11 septembre et bien d'autres ont été ourdis. Et un Afghanistan débarrassé d'Al-Qaïda est de notre intérêt national, tout comme de celui de l'Afghanistan, a déclaré le chef du gouvernement britannique, ajoutant, et nous citons, « 13 ans plus tard, l'Afghanistan peut et doit assurer lui-même sa sécurité. La lutte contre le mal est la même et ne saurait être divisée », a répondu de son côté le président afghan.
« We live whether we like it or dislike it, in an integrated world. »
Nous vivons, que nous le voulions ou non, dans un monde intégré où les forces globales, du bien comme du mal, coexistent, a souligné Ashraf Ghani aujourd'hui à Kaboul. Mardi, les États-Unis et l'Afghanistan ont signé un accord bilatéral de sécurité qui permettra à quelque 10 000 soldats et agents civils américains, de même que 2 000 soldats de l'OTAN, de rester en Afghanistan au-delà du 31 décembre, date retenue pour le retrait complet des forces internationales.
On passe maintenant à la page sport avec Timothée Donangmaï à nouveau. Timothée, football, la Côte d'Ivoire procède à des changements avant d'affronter la RDC pour le compte des éliminatoires de la CAN.
Eh oui, Chérubin, le sélectionneur des éléphants a convoqué 29 joueurs pour la réception des Léopards le 11 octobre à Abidjan. Les changements sont nombreux en défense, avec notamment le retour de Tiené, la mise à l'écart de Bamba, sanctionné sportivement, et les débuts du prometteur Wilfried Kano.
Autre sélection dans l'actualité, la Seleção.
Et oui, le milieu de terrain de Sao Paulo, Kaká, a été rappelé en sélection brésilienne après plus d'un an et demi d'absence pour les matchs amicaux contre l'Argentine et le Japon. Le retour en sélection nationale de Kaká, Ballon d'Or en 2007, fait suite à la blessure de Ricardo Goulart. Et la dernière convocation de Kaká en équipe brésilienne remontée à mars 2013.
Football toujours, côté sanctions.
Eh bien, c'est le CSKA Moscou qui a été condamné à jouer ses 3 prochains matchs européens à huis clos. C'est à la suite d'incidents, notamment de racisme, créés par ses supporters le 17 septembre lors d'un match à Rome.
Tristesse pour les amateurs de cyclisme en Afrique, pourrait-on dire.
Eh bien, la petite reine ne sera pas au rendez-vous. Cette année, le plus grand rendez-vous du calendrier cycliste continental, le Tour du Faso, n'aura pas lieu. En cause, l'épidémie du virus d'Ebola, toujours en cours en Afrique de l'Ouest.
Et parlons de basketball maintenant, Timothée Donangmaï, suite du championnat du monde féminin à Istanbul.
Et oui, la Turquie s'est qualifiée ce soir pour les demi-finales de son mondial, il faut le dire, en dominant la Serbie d'extrême justesse 62-61. Et son prochain adversaire, l'Espagne, victorieuse de la Chine, 71-55, ce sera en demi-finale. L'Australie a de son côté défait le Canada, 63-52. Et c'est pour le redoutable honneur d'affronter en demi-finale le vainqueur du choc de ce soir, États-Unis-France, il faut dire, chérubin, que les Américaines sont bien sûr championnes du monde et championnes olympiques. Mais peu avant ce mondial, les Françaises les avaient battues en match amical à Paris. Donc, avantage psychologique côté français, un air de revanche côté américain.
Nous parions sur les Américaines, bien sûr.
Quel est le meilleur gagne?
Comment, vous haussez les épaules? Non?
Quel est le meilleur gagne? Que la meilleure gagne?
Voilà, merci Timothée Donangmaï.
Place à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Certains grands de la musique africaine, Tchad Tidiane Seck, Oumou Sangaré, Mokobé et Mori Kanté, sont au studio à Paris pour composer une chanson entraînante face à l'épidémie meurtrière d'Ebola. Ils participent de façon originale aux efforts de sensibilisation et de la lutte contre le virus. On écoute un extrait d'Oumou Sangaré dans RM Show.
Tout à fait, c'est normal. Ça nous concerne tous. C'est important parce qu'on sait que notre voix peut vraiment sensibiliser, peut aider notre population vraiment à prendre la situation très au sérieux. Donc voilà pourquoi on s'aimait. Quand mon frère m'a appelé, quand Cheikh m'a appelé, je ne cesse de participer parce que c'est vraiment c'est une cause noble.
Sangaré, Koroko, merci Roger.
De rien Morgane, merci à tous nos amis de Libreville pour leur fidélité à la VOA.
Roger Muntou que vous retrouvez à 20h temps universel tous les soirs dans le RM Show. Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgan Guiriec.
Et Chérubin Lorsil qui remercie aussi Tian Wang à la console technique.
Je vous souhaite une excellente soirée.
gbọdọ fudu dọ. Ẹ sọ kí ni nínà. Kábílà ń fudu dọ. Àmọ́sọ gbọdọ fudu dọ. Ẹ sọ tó nínà. Kábílà ń fudu dọ. Àmọ́sọ gbọdọ fudu dọ. Híyà híyà. Híyà híyà. Híyà híyà.